Comment va la France? Mal. Qui oserait dire le contraire? 2002, l'économie française se situait peu ou prou au niveau de l'Allemagne. 2012, en 10 ans, la France se situe au niveau de la Grèce. Des 27, elle est même le seul pays européen à avoir perdu son industrie. Une industrie qui totalise aujourd'hui et en tout et pour tout 2000 entreprises seulement, dont 250 seulement sont de grandes entreprises, dans les quatre fleurons restants de l'aérospatiale, du luxe, de l'agroalimentaire qui perd pourtant des parts de marché et de la pharmacie. Je vais dire des choses désagréables pour des oreilles de gauche, mais c'est un rôle que j'aime assez, annonçait Jean-Pierre Elvade en préambule au 107e Altermardi Parlons Solutions dont il était l'invité le 27 novembre dernier, invitation à la suite du rapport Gallois remis au Premier ministre pour relancer la compétitivité française. Pour que l'on ne s'y trompe pas, Jean-Pierre Elvade, haut fonctionnaire, a été le conseiller économique de Pierre Mauroy. Il a été appelé à redresser le Crédit Lyonnais à l'époque où le contribuable renflouait cette banque privée sans y avoir forcément son compte et s'était prononcé en faveur de la candidature de François Hollande avant de se rallier in fine au Modem pour cause de désaccords précisément sur l'économie. Aujourd'hui, son livre « La France, état critique » est un diagnostic que nul ne conteste, Jean-Pierre Elvade.
Oui, j'essaye d'expliquer dans ce livre « France, état critique » que nous avons perdu depuis 10 ans énormément de parts de marché dans le commerce mondial, à l'exportation, beaucoup plus que nos voisins européens. On est le grand pays européen qui a le plus perdu de parts de marché et que cette détérioration longue, permanente, structurelle, qui ne s'améliore pas du tout pour l'instant, on est toujours sur une pente de déclin de parts de marché, nous a coûté probablement entre 1 million et 1,5 million d'emplois, nous a coûté au moins 0,5 point de taux de croissance par an, c'est-à-dire autant de revenus, y compris salarial en moins, et nous a coûté probablement 2,5 points de déficit budgétaire en plus. Vous voyez que si nous avions réussi à maintenir notre compétitivité, à maintenir nos parts de marché, la France serait aujourd'hui dans un état très différent de celui dans lequel elle se trouve.
Autrement dit, il n'y a pas une crise mondiale, il y a réellement une crise propre aujourd'hui à la compétitivité française.
Vous avez raison de souligner le double aspect, si je puis dire. C'est-à-dire que nos hommes politiques de toute tendance se sont beaucoup abrités, d'une certaine façon, derrière la crise mondiale, qui a été tout à fait sérieuse à partir de la faillite de Lehman Brothers, s'abritent encore aujourd'hui derrière la crise européenne pour gommer, d'une certaine manière, ou faire oublier les faiblesses spécifiques à la France. Nous souffrons de cette crise davantage que d'autres parce que nous sommes mal armés pour y faire face. Et tant que nous ne corrigerons pas nos défauts, nous serons nécessairement en position difficile chaque fois qu'il y aura un mouvement économique mondial de récession ou de ralentissement.
Alors il y a eu la révolution industrielle, au demeurant aujourd'hui l'industrie, ça reste le pivot réellement de la richesse d'un pays. Les services, ça n'est pas encore le cas. Est-ce qu'on se trompe en pensant que les services peuvent créer de la richesse hein ?
Les services créent de la richesse, créent beaucoup de richesse. Les services, c'est probablement de l'ordre de 70%, 80% du PIB. Mais il crée de la richesse locale, il crée de la richesse de proximité. Vous allez construire une maison ou un appartement, vous allez voir l'architecte le plus proche. Vous avez besoin d'un comptable, même chose. Une sage-femme, un banquier, un avocat, vous n'allez pas prendre un avocat à New York ou à Shanghai. Donc les services sont extrêmement utiles au fonctionnement de l'économie, ils sont essentiels, ils sont très importants, mais ils sont de consommation locale. Ils ne s'exportent pas, à part le tourisme. Et ce qui s'exporte, ce qui fait donc le pouvoir d'achat d'un pays en matière internationale, ce sont des produits industriels. Les produits industriels qui ne sont pas à la mode ou qui n'étaient plus à la mode en France, en tout cas pendant longtemps, les produits industriels, c'est 80% des échanges internationaux. Donc si vous n'êtes pas capable de relever le défi, vous êtes forcément une économie déclinante.
Les salaires aujourd'hui sont trop élevés en France hein ?
Pas dans l'absolu qu'ils sont trop élevés. C'est leur évolution, c'est-à-dire on continue à avoir, ce que je comprends, bien entendu, des revendications salariales, des demandes des syndicats et des acceptations d'augmentation de salaire de la part des patrons qui ne sont pas en harmonie avec le fait que nous n'avons plus de croissance du tout. Donc ce n'est pas le niveau absolu, c'est l'évolution qui est inquiétante. Il faudrait, pour pouvoir justifier ces augmentations de salaire, d'abord refabriquer de la croissance, c'est-à-dire refabriquer de la productivité, c'est-à-dire travailler davantage, travailler mieux, investir davantage et être compétitif à l'exportation.
Autrement dit, ce que vous analysez comme une sortie possible de crise, dans la mesure où elle est réellement possible, c'est vraiment en fait remettre l'économie française sur les rails, les Français au travail ?
Oui. Oui.
C'est un discours qu'on qualifie de façon un petit peu caricaturale de droite. Il n'y a pas d'économie de gauche possible ?
Je ne sais pas comment on peut consommer davantage que ce qu'on produit. Et donc, le modèle économique français ne produit pas assez. Donc oui, il faut qu'on change de modèle économique. Et pour produire, il faut travailler davantage, travailler mieux, avoir une main-d'œuvre plus qualifiée, mieux formée professionnellement. Il faut aussi investir, avoir davantage de capital au sens technique du terme, davantage d'installations, davantage d'équipements, davantage d'innovation, davantage de recherche, davantage de développement. Donc, vous voyez, il faut changer de modèle économique.
Les premiers compétiteurs pour les Français, ce sont les Allemands ou bien les Chinois ?
Ce sont les Allemands. De manière plus générale, ce sont les pays d'Europe du Nord. En d'autres termes, là où nous avons perdu le plus de parts de marché, c'est pas dans les pays émergents, c'est pas par rapport à la Chine, c'est pas par rapport à l'Inde. Là où nous avons perdu le plus de parts de marché, c'est à l'intérieur de l'Europe.
Pourquoi la France a-t-elle eu cette dérive ? Puisque, au bout du compte, les autres pays d'Europe, hormis la Grèce, hormis l'Espagne, pourquoi cette dérive de pays comparables ?
C'est une des conséquences imprévues et malheureuses de l'euro, c'est qu'il y a des pays, toute l'Europe du Nord, qui a compris que le fait de fixer le taux de change de manière définitive, obligé à vérifier que l'économie fonctionnait de manière vraiment compétitive par elle-même. Et vous avez toute l'Europe latine, dont fait partie la France, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, qui ont cru que l'Europe du Nord allait prêter de l'argent de manière indéfinie.
Est-ce que c'est aussi une spécificité française, hein, le fait que les gouvernements de gauche peuvent, entre guillemets, s'autoriser à avoir ce qui, dans la tête des gens, peut être appelé de façon simpliste une politique de droite, pendant que les gouvernements de droite, parfois, sont un petit peu contraints des politiques, entre guillemets, de gauche hein.
Je crois que vous avez raison, c'est-à-dire que, je le dirais autrement, je pense que la droite française qui... théoriquement considère qu'elle a une sorte de légitimité automatique d'exercice du pouvoir, sur le terrain économique, n'a jamais exercé ses responsabilités de manière plus efficace que la gauche. Donc finalement, quand on regarde l'évolution économique française depuis les deux chocs pétroliers, il n'y a aucun budget qui a été à l'équilibre. Je trouve que les responsabilités des différents gouvernements, de ce point de vue-là, sont à peu près égales.
Jean-Pierre Elvade, positivement subversif, c'est lui-même qui le dit, les services publics gratuits, oui, mais avec une économie marchande pour justement les financer. Or, à ce jour, 80% du commerce mondial est fait de produits industriels. Autrement dit, le pouvoir d'achat d'une économie se mesure directement à l'aune de son industrie et non pas de ses services. La preuve, par nos importations de bidons d'essence et d'écrans plats. Moralité, un pays qui n'est plus en mesure d'exporter s'endette. Au sein de l'Europe, avant le passage à l'euro, ce type de situation pouvait momentanément se compenser par la dévaluation de sa monnaie nationale avec la monnaie unique. Ce mécanisme a tout bonnement disparu. Question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la France d'avoir une industrie ? La réponse fâche aussi. Sa politique salariale, nous dit encore Jean-Pierre Elvade, avec en toile de fond un dialogue social qui sera le bienvenu. Pendant que la une de l'actualité est faite d'une certaine saga politique, les haltères mardi parlons solution ont préféré s'en tenir à un sujet de fond, qu'il fâche ou non, jusque y compris dans les rangs de son auditoire habituel.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.